vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Michel Tauber à l'occasion de l'apparition du recueil de poésie hébraïque de Léa Goldberg, publié aux Presses de la Sorbonne. Bonsoir Michel.
Bonsoir Sandrine.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est une première dans cette émission et nous nous en réjouissons. Alors, avant d'entrer dans le cœur de ce livre, quelques mots peut-être de votre parcours. Et si vous voulez ajouter des choses ou me contredire, n'hésitez pas. Vous êtes professeure de littérature hébraïque moderne et contemporaine à l'Université de Strasbourg, traductrice de l'hébreu et du yiddish, mais aussi de l'anglais et du russe. Votre trajectoire est à la fois universitaire et artistique, parce que vous êtes également musicienne et chanteuse, interprète de répertoire yiddish, hébraïque, russe, parfois tzigane ou roumain. La première question que j'avais envie de vous poser, comment ces deux dimensions de votre parcours s'articulent-elles ?
Le plus facilement, le plus simplement du monde, étant donné que par la chanson, j'entre de plein pied dans la poésie, parce que ce que j'aime particulièrement, c'est prendre justement, et en hébreu et en yiddish, ça ne manque pas, prendre des textes poétiques qui ont été mis en musique et les interpréter. De plus, je considère que le métier d'enseignant est un métier où l'on se met en scène. Je pense que mes étudiants ne me contrediront pas là-dessus. Et j'ai même réussi parfois, à plusieurs reprises, à cumuler les deux, c'est-à-dire à enseigner la poésie hébraïque par la chanson. Donc là, c'était vraiment c'était l'osmose totale. Je voudrais juste préciser que je ne suis pas traductrice du yiddish, en tout cas.
Pas encore.
Et que je me suis essayé ça et là, mais j'ai pas tout à fait le temps pour l'instant à traduire de l'hébreu, mais que ça viendra peut-être plus sérieusement dans l'avenir.
D'où vous vient le goût pour ces langues ?
Oh bah, de la maison. Mehr Beit, Fundeheim, comme on dit chez nous. Voilà, j'ai vraiment grandi dans une ambiance yiddish de par la maison, même si on ne me l'a pas transmis directement, mais le yiddish était bien là et a toujours été là. Et l'hébreu, parce que j'ai eu beaucoup de familles très proches en Israël et que très vite, ça a créé un lien extrêmement fort et que j'ai vécu et que j'ai étudié. Et que je continue.
Alors, votre actualité, c'est donc l'apparition de ce recueil de poésie hébraïque de Léa Goldberg aux Presses de la Sorbonne.
Nouvelle. Presse de la Sorbonne,
nouvelle.
Anciennement
oui.
Paris 3.
Exactement.
Anciennement Censier et à présent Nation. Mais voilà, juste pour...
Alors, vous avez travaillé sur cet ouvrage avec un collectif de traductrices et de traducteurs. Vous nous en parlerez dans un instant. L'ouvrage donne accès à l'une des voix les plus sensibles de la poésie hébraïque du XXe siècle. Née en Europe orientale et installée en Palestine mandataire puis en Israël, Léa Goldberg écrit une poésie traversée par l'exil, la mémoire et la solitude, mais aussi par une attention constante à la nature, au paysage et aux gestes infimes du quotidien. Sa langue, d'une grande limpidité, porte les traces des langues européennes tout en inventant un hébreu poétique d'une modernité discrète. Ses poèmes disent la nostalgie sans plainte, l'attachement sans emphase et proposent une parole intérieure retenue, profondément humaine, qui continue de résonner avec force aujourd'hui. Je dois vous dire que j'aime beaucoup cette poésie.
C'est exactement ça.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi aujourd'hui l'apparition de ce recueil de poésie de Léa Goldberg en France ?
Ah ben c'est tout simple. Il se trouve que les Presses de la Sorbonne Nouvelle ont une collection, Petit cahier de poésie bilingue, qui a été initiée par une collègue angliciste, spécialiste donc de littérature indienne et britannique. Et cette collection vise à faire connaître des poètes exotiques, entre guillemets, donc toutes sortes de langues. Et un beau jour, elle s'est adressée à moi, puisqu'à l'époque, je n'étais pas encore à Strasbourg, mais je faisais partie de la Sorbonne Nouvelle, en me demandant si j'avais envie de participer justement à éditer un tel recueil. Et me dit, ajoute-t-elle, elle aimerait bien que ce soit une poétesse. Et là, ça a été direct, ça a été Léa Goldberg. Pourquoi elle ? Parce qu'il y en a beaucoup d'autres, hein. Elle n'est pas loin d'être la seule, mais disons qu'elle est quand même essentielle, enfin elle fait vraiment partie de la poésie hébraïque contemporaine fondamentale, et que son je dirais pas son alter ego, mais en tout cas une de ses homologues les plus célèbres, qui s'appelle Rachel. Et là, les auditeurs vont peut-être dresser l'oreille, parce que Rachel, évidemment, ça leur parle beaucoup. Rachel Bloufstein, quand même un nom de famille. Elle a eu la chance d'être traduite ces dernières années intégralement par monsieur Bernard Grasset, à qui j'adresse un amical salut, et en collection bilingue. Donc je me suis dit, là, ça peut être que Léa Goldberg, avec tout l'apport que vous venez de donner en résumé, mais qui est tout à fait exact, tout l'apport qu'elle a donné justement à la poésie hébraïque et qui a débouché en fait sur une série enfin tout un groupe d'épigones, de disciples en quelque sorte, même si sa poésie n'est pas du tout copiée, mais on s'en est beaucoup, beaucoup inspiré dans les générations qui ont suivi.
Vous avez cité le prénom de Rachel et le nom Bloufstein, qu'on connaît en France assez facilement. Pourquoi Léa Goldberg n'est pas connue de la même manière ? Pourtant, elle a une œuvre pluridisciplinaire de grande qualité. Mm-hmm. Elle est notamment poétesse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, justement ?
Oui, alors, d'abord, il se trouve que Rachel est née en 1891 et Léa Goldberg en 1911. On est donc à une génération d'écart. Et ça pourrait en partie expliquer cela, à savoir que les poèmes de Rachel ont été mis en musique très tôt. Rachel meurt en 1931, mais dès les années 15, 20, 25, ses poèmes sont mis en musique et donc sont interprétés, chantés et donc transmis dans tout un tas de mouvements de jeunesse. Rachel, c'est quand même la figure de proue de Eretz Israël Ovedet, c'est-à-dire cette terre d'Israël qui s'acquiert par le travail. C'est toute l'idéologie de la religion du travail de Aaron David Gordon, dont elle était très proche. Et que donc, par cette transmission de mouvements de jeunesse dès les années 20, les mouvements de jeunesse ayant migré, évidemment, entre autres en France, il y a quelques chansons de Rachel, et une en particulier, qui sont célébrissimes. Ce qui n'a pas été le cas de Léa Goldberg, donc, née donc 30 ans plus tard, 20 ans plus tard, pardon, oui, et surtout, qui n'a pas eu, malheureusement, la chance d'être mise en musique de son vivant. C'est vraiment à partir des années 70, elle meurt donc en 1970 précisément, et c'est à partir de là qu'on va avoir droit à une pléthore de mises en musique de ses poèmes. Donc évidemment, en Chutz La'aretz, donc en dehors d'Israël, elle est moins connue. Je ne sais pas ce qu'il en est des pays anglo-saxons, mais je pense pas beaucoup plus. On avait, alors j'ai pas vraiment travaillé, malheureusement, j'aurais bien aimé, avec une équipe de traducteurs. Il se trouve que certains poèmes figuraient déjà, et dès 1960 chez Albin Michel, Nicolas Lazare, dans un recueil, un florilège de poésie hébraïque contemporaine, avait donné quelques poésies. Ensuite, on en trouve encore deux ou trois autres dans une anthologie de chez Gallimard, 98, que j'ai remaniée, on va dire. Ensuite, on en trouve évidemment dans Chacune a un nom, pardon, qui est un recueil qui est apparu en 1998 également chez Caractère, et qui est un recueil consacré à des poétesses hébraïques, donc là, à nouveau, traduit par Esther Horner, et puis Francine Kaufmann, qui est une très bonne amie, qui fut mon enseignante en Israël, avait elle-même, pour le plaisir, hein, comme souvent, traduit des poèmes qu'elle avait dans son tiroir, et non, je lui ai demandé évidemment l'autorisation de les publier. Ajouté à cela, quelques autres que je me suis permis de traduire modestement, de me lancer en traduction poétique. Voilà, donc voilà pourquoi Léa Goldberg n'a pas ce renom qu'a eu Rachel, à mon avis. Il y a peut-être d'autres raisons. Hein.
Alors, il faut dire que c'est un petit livre facile à lire, en édition bilingue, hein, donc en hébreu traduit en français, avec une jolie préface qui explique les itinéraires de vie de Léa Goldberg, qui a traversé les grandes tragédies du XXe siècle, les guerres, l'antisémitisme, l'exil, la Shoah, mais aussi l'espoir incarné par la renaissance de l'État d'Israël. Et sa poésie en est imprégnée. Est-ce que ce serait trop résumé de dire qu'elle serait une poétesse de l'histoire avec un grand H, ou une poésie qui fait cohabiter son histoire intime et puis la grande histoire ?
L'histoire avec un grand H, ou une grande H, comme oui, dit quelqu'un, je ne pense pas. Je ne sens pas dans sa poésie qu'elle s'inscrive vraiment dans une démarche justement de voilà, montrer qu'elle a traversé son siècle, justement comme le fait Pérec, hein, quand même, je suis née, etc. Non, en revanche, il est évident que sa poésie est marquée, mais pas de façon forcément très forte. Par exemple, la Shoah ne va apparaître que dans de très, très rares poèmes, hein, même si elle y fait par elle, même si, quand même à relever, parce qu'on parle d'elle comme poétesse, mais je voudrais quand même ajouter que elle est auteure dramatique, certes d'une seule pièce de théâtre, qui a d'ailleurs été traduite en français et parue à l'Agence juive il y a quelques décennies, qui s'intitule La Châtelaine, et qui traite justement la difficile adaptation des rescapés de la Shoah en Israël après la guerre. Qu'elle est également une grande autrice, une grande poétesse pour l'enfance. Elle a énormément de chants, de comptines, d'histoires, d'albums pour la jeunesse qui jusqu'aujourd'hui font autorité, sont joués au théâtre. En Israël, elle est très, très connue. Elle fait vraiment partie du paysage poétique et enfantin israélien. On l'appelle Léa, de même qu'on appelle Rachel, Rachel. Évidemment, Rachel et Léa. Donc, elle a enseigné à l'université la littérature et puis elle a fondé, ce qui n'est pas rien, un département de littérature comparée. Et ces conférences ont laissé une marque indélébile dans l'esprit des gens qui ont encore eu la chance de l'entendre. Et last but not least, c'est une immense traductrice. Alors là, ça n'a rien d'exceptionnel, sauf que c'est une traductrice exceptionnelle. Pourquoi je ne dis pas exceptionnelle ? Parce que dès le renouveau, le réveil de la langue hébraïque, je dirais, à la fin du 19e siècle, il incombait à tout auteur, qu'il soit poète ou prosateur, de créer pour la jeunesse. Il fallait absolument créer un corpus qui, évidemment, n'existait pas. Donc, créer pour la jeunesse, et créer pour la jeunesse, ça signifie aussi non seulement écrire pour elle, mais aussi faire connaître la littérature du monde, comme on dit en hébreu. Et la littérature du monde, ouais, il fallait l'amener en hébreu. Et donc, c'est comme ça qu'on a, les sonnets de Shakespeare, mais on a de l'autre côté Guerre et Paix, les sonnets de Pétrarque. Elle a été extrêmement inspirée par la forme sonnet qu'elle a réintroduit, en fait, à la suite de son grand aîné Tchernychovski dans la littérature hébraïque.
Alors, c'était une question que j'allais vous poser, mais vous m'avez précédée, puisque Léa Goldberg était polyglotte, docteur en linguistique sémitique, fondatrice, vous l'avez dit, du département de littérature comparée à l'Université hébraïque de Jérusalem, et sa poésie s'écrit en langue hébraïque. Et donc, vous nous donnez les raisons. Cette poésie où sa langue est sobre, claire, fraîche, est-ce que... il y a d'autres particularités qui font la singularité de sa voix poétique parmi les autres poètes hébraïques de son temps.
Alors les autres, comme vous dites, les autres poètes hébraïques de son temps, parce qu'il y a quand même assez peu de poétesses en ce temps-là, et on lui a fait bien, bien sentir, c'était pas du tout évident de faire partie de cet aéropage de poètes hébraïques dans les années 30 à Tel Aviv, parce que c'était là-bas que tout se passait. Et ces poètes, bon, j'en citerai deux parce que c'est vraiment les piliers, Avraham Shlonsky et Nathan Alterman, sont encore extrêmement inspirés d'une poésie très très symbolique, marquée au coin évidemment de la symbolique russe parce que c'est quand même la poésie inspirante au niveau de la forme pour eux, mais aussi marquée au coin de l'hébreu biblique et de la tradition. Chose que Léa Goldberg va, alors je ne peux pas dire éviter, mais qui n'est pas le premier de ses soucis. Et surtout, le premier de ses soucis, c'est d'écrire dans une langue qui soit complètement accessible, même si l'on sait bien qu'un poète a beaucoup de choses à dire à côté des mots, sous les mots, entre les mots, etc. Ce qui est son cas. Mais d'entrée de jeu, quand on le lit, on ne se pose pas forcément énormément de questions quant à la signification, quant au pshat, le sens obvi du poème est quand même là, on verra peut-être en chemin faisant quelques vers. Donc c'est en cela qu'elle s'est vraiment démarquée de ses contemporains qui étaient à peu de choses près vraiment ses contemporains, puisqu'Alterman est né en 1910, donc ils avaient quasiment le même âge. Shlonsky 1900, c'était peu ou prou la même génération. Elle aussi a été influencée par les Russes, et en particulier par Anna Akhmatova et par Ossip Mandelstam, mais qui déjà, eux, se démarquaient de quelqu'un comme Alexander Bloch, qui écrit vraiment une poésie extrêmement complexe et très difficilement accessible. Je pense que pour elle, c'était vraiment l'idée d'écrire. Elle écrit en hébreu quand même dès l'âge de 10 ans. Et elle décide, quelques années plus tard, de devenir une poétesse hébraïque. Et elle a, pour l'instant, elle se trouve en Lituanie. C'est pas, c'était déjà l'Union soviétique, mais elle était ensuite, elle est partie en Allemagne. Enfin, comme vous l'avez dit, elle a déjà un parcours très européen avant d'arriver en Palestine.
Alors justement, ce que vous dites suscite deux questions. C'est que une poésie hébraïque est quand même inspirée par cette enfance avant d'arriver en Palestine mandataire, en Eretz Israël, donc avec une sorte déjà de mémoire linguistique multiple et une sorte de nostalgie aussi des paysages qu'elle a quittés. Et vous avez dit qu'elle a commencé enfant à écrire des poèmes. Du coup, un certain nombre de poèmes ont été écrits en langue hébraïque. Comment on fait un choix dans un recueil de poésie de tel ou tel poème plutôt qu'un autre?
Ah oui, alors ça, c'est une excellente question à laquelle j'aurais un peu de mal à répondre, parce que c'est vrai que l'œuvre complète en poésie de Léa Goldberg, c'est quand même 3 tomes épais de poésie. Et là, il y a une petite quarantaine de poèmes, y compris quelques poèmes pour la jeunesse que je n'ai pas pu résister, évidemment, de les inclure. Je dois dire que, effectivement, première chose, comme encore une fois, je ne me définis pas comme une traductrice de poésie, je suis quand même allée prendre ce qui était déjà traduit et qui dormait. Je pense que c'est le mot, dans ces recueils précités et qui en plus n'étaient pas édités en langue bilingue. Pour moi, c'est très très important. Enfin, connaissant quand même pas mal d'hébraïsants étudiants que je suis depuis des années et tous les autres, je me disais que ça allait quand même faire plaisir à plus d'une personne de pouvoir avoir accès, même un hébraïsant lambda, je dirais, pas forcément quelqu'un de distingué et qui connaît son hébreu sur le bout des doigts. Je pensais que ça ferait plaisir d'avoir accès de nouveau à ces textes qu'il est difficile de trouver, surtout ceux de chez Albin Michel, qui n'ont pas été réédités. Après, j'ai choisi selon mes coups de cœur. Je dois dire que voilà, j'ai pas eu de choix particulier. Si on me demandait un deuxième tome, là, je pense que je réfléchirais un peu plus pour opérer un choix.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz sur Radio Shalom en compagnie de Michel Tauber qui nous parle du recueil de poésie hébraïque contemporaine Léa Goldberg paru aux presses de la Sorbonne Nouvelle. Léa Goldberg a vécu sans fonder de famille, elle est restée très liée à sa mère et dans une forme de solitude assumée mais douloureuse. Est-ce que vous pensez que cette solitude a pu nourrir la tonalité nostalgique de certains de ses poèmes? Et est-ce que je pourrais vous demander, avant de répondre à cette question, de lire le portrait de maman de la page 103.
Ah oui, ça, c'est effectivement, comme vous le dites, hein, elle a été malheureusement comme Rachel, mais pour d'autres raisons, elle est demeurée célibataire et était très proche de sa mère qui est venue avec elle en Palestine, donc puisque Palestine c'était avant 48, et qui a d'ailleurs survécu à sa fille, donc décédée. Très jeune, il est évident que, et les épisodes de sa jeunesse sur lesquels je ne vais pas m'étendre, vous les lirez, j'espère, les auditeurs, et les épisodes de sa jeunesse et l'accueil reçu dans cette Palestine tout de même assez dure, hein, des premiers temps, même si quand on voit des photos, si vous allez sur Internet et vous cliquez Léa Goldberg, Tel Aviv 1935 ou 38, vous verrez des photos de personnages attablés à une table de café, comme si tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais je pense que pour elle, il a été quand même difficile de se faire sa place. Elle a beaucoup travaillé pour les journaux de l'époque, journaux de gauche évidemment. Elle a également été conseillère artistique au théâtre Habima. Mais toujours avec cette solitude, cette mélancolie, cette nostalgie du pays natal qui se mêlait à cet amour, évidemment, de la terre où elle se trouvait, mais qu'on retrouve les deux mêlés. Il y a toujours cette espèce d'entrelacement chez elle, dans la poésie. Lorsqu'elle parle des paysages, elle peut parler du port de Tel Aviv, qui a donc comment ont été commencés d'être construits dans les années 30, 35, 36, avec enthousiasme. Et au milieu de cet enthousiasme, hop, il y a la petite note du pays natal là, qui ressurgit au hasard d'un verre. Et donc, Portrait de maman. Je le lis en quelle langue ?
Alors, celle-ci en français. Et j'aurai une autre à vous demander de lire en hébreu.
D'accord. Ta photo est sereine. Tu es si différente, un peu fière et confuse, toi, ma mère. Tu m'accompagnes, la larme à l'œil, et ton sourire apaisé. Et jamais tu ne demandes « qui ?» Tu n'étais ni étonnée, ni fâchée lorsque je venais chaque jour et disais « donne-moi ». Tu m'apportais tout de tes propres mains, simplement parce que j'étais moi. Et mieux que moi, tu te souviens aujourd'hui des chagrins de mon enfance. Et déjà, tu savais que ta fille viendrait vers toi avec son désespoir, sa tristesse de grandir. Oui, je viendrai brisée, sans demander comment tu vas. Je ne m'épancherai pas dans ton sein, je ne murmurerai pas « maman ». Tu sauras que celui qui m'a abandonnée m'était plus cher que toi. Et tu ne demanderas pas « qui ?» Voilà, poème qui étreint. C'est
très
un
beau
poème qui vraiment fait presque venir les larmes. Oui.
Vous parliez de sa renommée en Israël, elle reste quand même une figure majeure, au point que son visage est, je crois, même sur les billets de 100 shekels.
Absolument.
Est-ce qu'elle est toujours lue chez les enfants, à l'école ? Est-ce qu'elle est toujours enseignée ? Est-ce qu'elle est toujours aimée ? Et je vous donne une anecdote. Une amie qui revenait d'Israël m'a offert un carnet avec la figure de Léa Goldberg. Mmh. Et parce que pour elle, israélienne, Léa Goldberg est l'image, plus que de la poétesse, d'une femme qui savait ce qu'elle voulait.
Mmh. Ah, ça, c'est sûr qu'elle savait ce qu'elle voulait. Et qu'en général, elle l'a fait. Alors, sauf dans sa vie affective, mais ça, c'est autre chose, même si, évidemment, c'est intimement lié. Mais j'aime pas trop avoir recours à ce qu'elle a vécu pour expliquer que si, que ça. C'est un peu trop réducteur et un peu trop simple. Mais il est vrai qu'elle est extrêmement connue auprès des enfants et des plus petits. Elle a eu la chance que quelqu'un comme Yonatan Geffen, qui fut un immense compositeur, a mis en musique certaines de ses comptines les plus célèbres. Que font les biches la nuit ? Elles jouent aux billes avec les éléphantes. Ça, c'est un tube, je veux dire, archi connu. La chanson de la Jacinthe, mise en musique par Naomi Shemer. Naomi Shemer, c'est Jérusalem d'or et de lumière, bien entendu, qui a aussi composé beaucoup, beaucoup de musique pour l'enfance. Et puis, des albums. Alors, les albums dont on a tiré des représentations théâtrales pour les enfants. Un album auquel je pense, qui s'intitule « Un appartement à louer ». Et qui est vraiment une explication très claire de ce que ne doit pas être l'ostracisme et le racisme à travers des animaux. Voilà, à chaque étage de l'immeuble habite un animal différent et il y a un des animaux qui décède, donc l'appartement est à louer. Et là, on a affaire à des oppositions lorsque un nouvel animal surgit et qu'on le refuse pour tout un tas de raisons, évidemment. À décrier. Et ça, c'est un classique. Vraiment, Léa Goldberg fait vraiment partie du paysage des auteurs classiques. Et en tant que femme, je pense peut-être plus que Rachel, qui encore une fois est cette figure de proue d'un mouvement quand même idéologique très fort. Je ne dis pas du tout qu'elle est mise de côté, mais si on pense poétesse contemporaine, à la fois par la langue et à la fois par les prises de position, c'est Léa Goldberg. Léa Goldberg, par exemple, prise de position politique. Alors là, ça ne figure pas là-dedans, j'ai découvert tout à fait par hasard. Elle avait signé une pétition avec Gershom Scholem, enfin tous les grands pacifistes, qui s'opposaient à la peine de mort contre Eichmann, parce qu'elle trouvait que c'était s'inscrire dans les mêmes pas que ceux des nazis, que d'aller tuer quelqu'un et qu'ils étaient tous pour, évidemment, un emprisonnement à vie. Mais que... Voilà, par exemple, Léa Goldberg.
Et puis cette image avec souvent une représentation, une cigarette,
ah oui, hélas.
En pantalon, Une femme libre, une femme moderne.
Oui. Une femme libre, une femme moderne, et avec en même temps, oui, c'est vrai qu'on la voit souvent sourire, mais bon, c'est quand même, je dirais, un demi-sourire. Enfin, c'est quelqu'un qu'on aurait beaucoup aimé connaître et avec qui on aurait aimé beaucoup discuter, partager. Elle avait une connaissance, vous l'avez dit, quasi infinie de la littérature européenne, hein. Pas encore trop la génération qui s'occupe de la littérature anglo-saxonne, ça vient la génération suivante, hein, va se tourner, mais en littérature européenne, elle était incollable. Enfin, aussi bien l'italienne que la française, que l'anglaise, que la russe, que l'allemande. C'est quand même impressionnant.
Et puis, l'impression qu'elle aimait beaucoup tout ce qui relevait de la nature, des arbres, des paysages, aussi des saisons. Et il y a un poème très joli que peut-être, même sans doute, vous allez nous lire maintenant, Nahal Sheli. On est à quelques jours de Tu Bishvat, et peut-être que c'est ce poème qu'il faut lire pour commencer le seder de cette fête.
Vous me rappelez
page
juste...
114.
Alors,
en hébreu, si vous
pouvez.
Je
peux même faire autre chose, oui. si vous le souhaitez, parce que Nahal Sheli, c'est effectivement un poème alors inspiré de la tradition slave. Il faut dire aussi que cette tradition slave a énormément irrigué le courant poétique en Eretz Israël et en Israël ensuite, puisque on sait bien qu'en Russie, il était de tradition dans des soirées très simples, hein, pas dans des cercles de poètes certifiés, mais tout simplement en famille ou entre amis, on ouvre un recueil de poèmes et on se met à les lire publiquement à haute voix, et ensuite à les mettre en musique, ce qui existe pour tout un tas de... Et donc elle s'est inspirée de cela, puisque sous le titre en hébreu Nahal Sheli, on a entre crochets le mot slavé, donc slave. C'est-à-dire qu'on a vraiment un portrait d'un paysage, au choix, comme vous le voudrez, lituanien. Peut-être.
Alors, je parlais des arbres parce qu'avant, il y a plusieurs poèmes autour des arbres, sur le pin, sur l'eucalyptus, sur le ricin. Et donc, cette série se termine par ce fleuve.
Alors, justement, mais la série Arbre, justement, le premier poème, Le Pin, est complètement emblématique. Excusez-moi, je fais un petit pas de côté. Complètement emblématique de cette double appartenance, cette double obédience, comme on disait en France il y a quelques années, puisque elle parle à la fois d'ici et de là-bas. Elle est en même temps en Eretz Israël, et je dis vraiment Eretz, même si ce poème a été écrit un peu plus après la création de l'État. Et en même temps, sur la terre d'Israël, et en même temps dans la terre de son enfance. Je ne lis pas tout, mais juste, seuls, peut-être, les oiseaux migrateurs, dont apparemment elle se compte parmi un oiseau migrateur, savent, suspendus entre ciel et terre, cette douleur de deux patries. Avec vous, j'ai été plantée deux fois, à propos de Tu Bishvat, justement. Avec vous, j'ai poussé les pins et mes racines dans deux paysages différents. Parce évidemment, le pin, un arbre emblématique du paysage de la steppe russe, mais aussi, enfin la steppe non, mais des bois de conifères. Et en Israël, on sait que le Keren Kayemet a planté beaucoup, beaucoup de conifères. Alors, pour en revenir à mon fleuve, il se trouve qu'il y a... Alors, pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'en fait, je chante ce poème. Il y a une musique de Sacha Argov qui est somptueuse, comme toutes les musiques de Sacha Argov. Mais vous voulez peut-être entendre le français avant de...
Oh, l'hébreu, c'est peut-être pas mal, non?
D'accord. Oui. Alors, je peux le chanter, du coup?
Ça serait génial.
D'accord, ok. Aya nahari dagul mirvava zariz admoni gavoa nishba nahari lishivim veshiva amar bahaviva voa אמר אשוב עם הגורים, אמר נצל אל הקטע גרגרים, פטל אדום על שיח, תנמה להבטיח. אוי הגוריי ארוכי הצוואר, חלף האביב, הקיץ עבר, צל מהופכם במים, נחל שלי תור עיניים. Etc. La suite sur mon double CD. Oh,
merci de ce cadeau. Mais alors, on peut le trouver où, votre double CD?
Le double CD, on le trouve, s'il en reste, mais je pense, sinon on m'aurait prévenu, Hommage, ainsi que la librairie du Temple. C'est un CD qui s'appelle Métamorphose, une mélodie, et je suis accompagnée au piano par Laurent Greenspan. Il y a un disque de poésie hébraïque et un disque de poésie yiddish.
Mais on va aller se le procurer de toute urgence. Merci,
merci
beaucoup. Et éventuellement la traduction en
oui,
français.
Oui, mon ami était beau entre mille, vif, élancé, chevelure de flamme. Il m'a fait tant et tant de serments. Au printemps, je reviendrai. Je reviendrai avec les cigognes, nous cueillerons du millet, des framboises rouges. Un plein panier, il m'a promis. Ô cigognes au long cou, le printemps est passé, et aussi l'été. L'ombre de votre envoi sur l'eau, mon fleuve aux yeux si purs. Je partirai à l'aube, assise sur le rivage, les roseaux inclinés vers moi, je laverai mes boucles d'or dans le fleuve, pour y voir mon visage. Telle une fleur blanche, mon front flottera. Les cigognes, dans leur envol, verront ma pâleur. Ma fleur, mon lys, tout espoir est perdu. Ô cigognes au long cou, le fleuve raconte le destin de mon bien-aimé, son corps entraîné par les eaux, mon fleuve aux yeux si purs.
On vous lit, on vous écoute, on vous entend chanter et on voit combien la poésie fait du bien à l'âme, et notamment dans une époque un peu compliquée qui est marquée par une sorte d'intranquillité. Est-ce que finalement ce registre ne retrouve pas, compte tenu du concept, du contexte, une sorte de nécessité, un refuge, une résistance peut-être?
Oui, je suis d'accord avec vos termes, refuge et résistance. Effectivement, la poésie peut être quelque chose que l'on met en avant, que l'on porte en avant pour dire les choses, bien sûr autrement, puisque c'est un langage poétique, mais on sait que le langage poétique va dans plusieurs directions. Et en tout cas, il apaise et il donne de l'élan. Je pense que chez Léa Goldberg, c'est vraiment cela qu'on peut ressentir.
On arrive au terme de cette émission. On aurait eu beaucoup de questions à vous poser, mais il y a une question qui est devenue rituelle pour conclure. Si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de lire ce livre, de se l'offrir, de l'offrir à d'autres personnes, qu'est-ce que vous leur diriez?
Je leur dirais que Léa Goldberg n'est pas une poétesse féministe au sens où peut-être le sens que ce mot a pris aujourd'hui et qui va dans un certain extrémisme, mais c'est une poétesse, une femme poète, et que l'on peut sentir cette sensibilité parfois exacerbée, mais pas seulement une sensibilité exacerbée, il y a aussi de l'humour, il y a aussi de l'amour, et la nature, cette double nature de laquelle elle se revendique, la nature du pays natal, c'est-à-dire la Lituanie, hein, les paysages slaves, et les paysages de Eretz Israël auxquels elle est attachée de tout son corps et de toute son âme. J'espère que ça aura été convaincant.
Merci beaucoup. Vraiment un grand merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Il y a dans cette poésie de Léa Goldberg tout ce que vous dites, et puis peut-être aussi une manière de s'identifier. Même si l'époque n'était pas la même, eh bien on a l'impression que certains poèmes répondent à certaines choses que l'on vit, nous, ici, en diaspora. Et c'est tout à fait agréable. Donc évidemment, hein, recueil de poésie hébraïque contemporaine, Léa Goldberg, un cahier de poésie bilingue publié aux presses Sorbonne Nouvelle, est un livre que l'on recommande. Un livre lumineux, accessible et puis nécessaire.
Alors très accessible, excusez-moi de vous interrompre, il suffit d'aller chez son libraire et de le commander avec la mention PSN, Presse de Sorbonne Nouvelle, avec un prix qui défie toute concurrence, vous le verrez.
Alors on va le dire parce que vraiment pour 8 euros ce petit moment de plaisir,
on ne peut pas... Voilà,
il faut en acheter plusieurs et puis les offrir.
Voilà, je suis très, très fière de ma première de couverture où j'ai réussi à trouver les premiers mots du journal intime de Léa Goldberg. Donc vous avez son écriture manuscrite qui figure en hébreu bien sûr sur la première page.
Merci beaucoup et à très bientôt.
Merci
Michel Stauber.
Sandrine.